sommaire de l'émission ce 5 décembre, en direct jusqu'à 13h, le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Et puis le débat du week-end, qu'est-ce qu'une nation ? Vieille question est toujours d'actualité. Hier, Emmanuel Macron la définissait par la langue des ordonnances de Villers-Cotterêts. Il la définissait aussi par l'État qui, je cite le président de la République, a progressivement structuré un cadre, les lois, et il ajoutait l'histoire, mais une histoire qui n'est pas figée, qui vient de tous les continents. Alors qu'est-ce qu'une nation ? C'est aussi le titre d'un essai passionnant que publie l'historien Pascal Horry chez Gallimard. Lui qui travaille sur ce sujet depuis maintenant 40 ans, nous avons rendez-vous avec Pascal Horry dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel.
France Inter, le grand face-à-face.
Le duel, Natacha Polony, Gilles Finkelstein, bonjour à vous deux. On va commencer directement. Ce qu'on a entendu, c'était surbrut.
Nos échecs, c'est le ressentiment qui est né dans une partie de la population, pour des raisons culturelles, historiques, c'est-à-dire l'échec de l'intégration à la française. Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Et on a laissé à beaucoup de nos jeunes et moins jeunes l'idée qu'ils n'étaient pas une part de France. Et là-dessus, celles et ceux qui ont ce projet-là viennent les chercher en disant « C'est vrai, t'es pas une part de France.
Et justement,
Viens retrouver mon projet. Et juste pour finir, il y a ensuite le ressentiment économique et social. Ces discriminations à l'embauche, au logement, elles nourrissent ce ressentiment.
Voilà, dans quelques jours, le 9 décembre, on aura le projet de loi sur les séparatismes qui doit être présenté en Conseil des ministres. On vient donc d'entendre Emmanuel Macron, c'était hier sur le Média Brut, une interview de fleuve de plus de 2 heures. Un média choisi pour parler spécifiquement aux jeunes. Il y a eu de nombreuses thématiques, Gilles Finkelstein. Il y a eu la laïcité, l'identité, l'écologie, la crise sanitaire, les violences policières. De tout ce jeu de questions-réponses en direct, que retenez-vous ?
Bonjour à tous. Écoutez, Emmanuel Macron a, comme souvent dans ce type d'exercice, montré à la fois sa maîtrise des dossiers et puis son engagement, ses convictions. Il a, pour la première fois, prononcé le mot de violence policière auquel il se refusait. Et il a dit au sujet de cette fameuse loi sur la sécurité globale et sur ce fameux article 24 qu'il fallait lui laisser vivre sa vie parlementaire, ce que l'on pourrait traduire par « il faut organiser lentement sa mort », c'est-à-dire organiser son recul. Et ce à quoi on assiste depuis maintenant plus d'une semaine, c'est un recul, et je dirais un recul qui n'est même pas un recul en bon ordre. Et les dommages pour le président de la République, et je dirais même au-delà du président de la République, les dommages pour le pays me paraissent à ce stade relativement lourds. Cet article de loi et cette loi a provoqué une mobilisation d'une partie importante de l'opinion. On l'a vu la semaine dernière dans les manifestations. Ça créer un désordre à l'intérieur, un désordre politique à l'intérieur même de la majorité, à la fois entre le groupe parlementaire et le gouvernement, à l'intérieur même du gouvernement.
Est-ce qu'on rappelle à ce stade quand même, Gilles, parce qu'on l'a pas dit, l'essence de cet article 24? Il faut quand même toujours le...
Bien sûr. L'article 24 est l'article qui prévoit les modalités selon lesquelles peuvent être diffusées les images d'un policier. Et notamment qui prévoit que lorsque il est considéré que ces images sont à des fins malveillantes et qu'elles mettent en danger la sécurité des policiers, elles soient poursuivies et avec une peine de prison qui est une peine de prison de lourde. Donc il y a eu tout ça et il y a eu un dernier élément qui est lourd aussi, il y a eu une forme d'administration d'une leçon de droit constitutionnel, à la fois par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, lorsque il a été question que cet article soit réécrit. Donc ça, ce sont des dommages qui sont lourds. En même temps, si on veut être plus nuancé, l'opinion, je crois, regarde ça d'une oreille pour partie distraite, parce que l'actualité est extrêmement lourde sur beaucoup de sujets, même si les violences policières, et notamment l'affaire de Michel Zecler, a été vue et je crois provoquée une émotion extrêmement, extrêmement forte. Je termine d'un mot, je crois que ça c'est cette espèce d'équilibre, mais que il y a quelque chose de lourd qui s'est joué, et pour la France, et pour le président de la République, sur lequel je crois qu'on pourra revenir.
Natacha Polony, bonjour Natacha.
Bonjour.
Vous
Je rejoins l'idée de Gilles selon laquelle il y aura des conséquences que nous ne mesurons pas encore. Alors pour revenir d'abord sur l'entretien, l'interview d'Emmanuel Macron à Brut, je pense que ce qui est frappant surtout, c'est à quel point Emmanuel Macron essayait de renouer avec la promesse de sa campagne. Moi, c'est ça que j'ai entendu. C'est un président qui essayait de retrouver ce qui avait fait l'intérêt de sa campagne, puisqu'il y avait des choses extrêmement intéressantes dans cette démarche qui consistait à dire on va essayer de trouver un juste équilibre, une forme, ce qu'on a baptisé par ce terme en même temps, mais cette idée qu'on était capable à la fois de défendre une vision commune de la République, même si Emmanuel Macron à l'époque n'insistait pas beaucoup là-dessus, mais en même temps expliquer à des jeunes gens que le ressentiment par rapport à l'histoire coloniale devait être pensée, qu'il ne fallait surtout pas mettre cela sous le boisseau, le fait qu'il fallait être capable à la fois de défendre l'institution républicaine qu'est la police et reconnaître qu'il y avait des éléments qui ne pouvaient pas demeurer en l'état. Je retrouve cette tentative d'un en même temps non caricatural qui serait en fait la juste mesure. A-t-il été efficace? C'est toute la question. C'est-à-dire que derrière cette tentative, il y a l'idée qu'on pourrait effacer les erreurs par une nouvelle promesse. Et ça va être sans doute tout son objet dans les mois qui viennent, à l'approche de 2022. Est-ce possible? Je ne sais pas, dans la mesure où justement, et je rejoins Gilles là-dessus, la gestion de cette loi sécurité globale et de ce fameux article 24 met le doigt sur toutes les carences du macronisme. Il y a en effet une sorte d'incompréhension des mécanismes institutionnels de la démocratie française qui est assez frappant dans cette histoire. C'est-à-dire que certains ont pu parler comme Jean-Louis Debré d'amateurisme, de manque de professionnalisme. Il y a la révélation que le fait qu'Emmanuel Macron n'ait jamais eu de mandat parlementaire lui donne une vision de la République qui est, j'allais dire, éminemment monarchique et qui ne comprend pas quel est le rôle exact du législateur. Ce qui est tout de même gênant dans une démocratie qui est censée organiser la séparation des pouvoirs. Et je pense que ça risque en effet de se payer cher parce que derrière, il y a justement toute l'incapacité d'Emmanuel Macron à prendre la mesure de la crise démocratique que nous vivons aujourd'hui.
Donc Natacha qui entend à la fois le retour du en même temps dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais aussi la révélation d'une carence sur le plan institutionnel, Gene Finkelstein, qu'en pensez-vous?
Oui, Natacha se demande, est-ce qu'il est possible pour le président de la République d'effacer cette séquence? Ce qui est frappant dans ce retour du en même temps, c'est qu'on voit qu'il en ressent la nécessité, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant il y a des risques collatéraux qui peuvent être des risques collatéraux durables. C'est vrai pour la France, pour l'image de la France à l'extérieur. On a vu la manière dont un certain nombre de médias ou de responsables politiques étrangers se sont saisis de ces événements. C'est vrai de l'image de la France à l'intérieur et notamment des relations entre la police et les citoyens. J'ai été très frappé de l'enquête qui a été publiée par l'IFOP cette semaine dans laquelle on voit qu'il y a aujourd'hui presque autant de Français qui ont confiance en la police que de Français qui éprouvent de l'inquiétude vis-à-vis d'elle, avec une évolution de 11 points d'inquiétude supplémentaire et de 8 points de confiance en moins en l'espace d'un mois. Donc ce sont des mouvements qui sont absolument considérables. Et puis, il y a des dommages collatéraux pour Emmanuel Macron lui-même, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a essayé de rectifier. Je crois que ce qui est en jeu avec cette affaire, c'est à la fois la compétence technique. On voit à quel point cette loi, cette proposition de loi a été mal écrite, même si on parlait des questions institutionnelles tout à l'heure. De manière rigoureuse, ce n'est pas un projet de loi qui est issu du gouvernement, mais une proposition de loi qui vient du Parlement. Mais personne ne peut penser que le gouvernement n'a pas eu son mot à dire sur ce texte. Et puis, c'est son autorité politique qui est en jeu aussi dans cette affaire. Et enfin, c'est son identité idéologique, savoir de quel côté il va finir par tomber.
Allez, l'actualité, le débat continue, changement de thème.
France Inter, le grand face-à-face, Le duel.
Moi, j'ai une proposition. C'est une annulation concertée de toutes les dettes Covid de tous les pays membres de la zone euro et un rachat massif par la Banque Centrale Européenne qui donc ne spoliera personne et qui peut être parfaitement annulé car la Banque des règlements internationaux, qui est la Banque Centrale des banques centrales aujourd'hui, recommande cette solution pour pouvoir détruire en quelque sorte de la monnaie. Moi, je proposerai un contrat de réinvestissement dans la reconstruction écologique de l'agriculture et de l'industrie.
Voilà, Arnaud Bondebourg qui était l'invité du grand rendez-vous dimanche sur Europe 1, c'était le 22 novembre. L'ancien ministre Natacha Polony, l'ancien ministre Bondebourg propose d'annuler la dette de la France, vous l'avez entendu, afin de redresser l'économie européenne.
Alors d'annuler la dette Covid, c'est-à-dire la dette générée par le coronavirus. Mais le débat en fait est éminemment intéressant et en même temps fondamental. Pourquoi? Parce que cette question de la dette est en train de ressurgir. Finalement, depuis 2-3 ans à peu près, la baisse des taux d'intérêt faisait que cette obsession du problème de la dette avait un tout petit peu reculé et on était plutôt sur la question de l'investissement, comment on allait faire pour recréer de la croissance, réinvestir dans les domaines essentiels. Et là, même si les taux d'intérêt ne réaugmentent pas, cette dette a atteint un tel degré à cause du coronavirus que le sujet ressurgit, et c'est pas un hasard si Bruno Le Maire a expliqué la semaine dernière, là aussi dans un nouveau pataquès gouvernemental assez énorme, a expliqué qu'il fallait remettre sur le tapis la réforme des retraites, que c'était une priorité absolue, et il l'expliquait par la dette, la question de la dette. Sauf que, alors, les propositions d'Arnaud Montebourg sont extrêmement intéressantes et sa vision de l'idée de réinvestir systématiquement, de pousser l'agriculture, l'industrie, tout cela, on peut y adhérer à ceci près, qu'il faut bien comprendre une chose. C'est que annoncer qu'on annule une dette, c'est une fragilisation du système qui peut être extrêmement dangereuse parce que justement ça peut entraîner immédiatement une hausse des taux d'intérêt et cette fois une véritable crise financière. Dans un sens, je vais vous dire, la dette, c'est quelque chose, enfin, sur lequel il faut être parfois hypocrite politiquement. C'est-à-dire que quand on veut annuler une dette, on ne le dit surtout pas. Et il y a eu des histoires de défauts de dette, il y a différentes façons de rendre cette dette indolore. On voit d'ailleurs que la France enfin se met à convertir une part de sa dette sur le long terme et je pense qu'il faudrait amplifier ce phénomène. Tant qu'on rembourse les intérêts de la dette elle-même, on sait très bien qu'on la remboursera pas. Mais ça ne se dit pas. Et je pense que derrière, il y a tout un problème sur lequel, en revanche, il va falloir se pencher, qui est la nature même du néolibéralisme comme système capitaliste fondé sur la dette. Parce que la dette est au cœur de ce système dans la mesure où la sphère financière est devenue une industrie dont le but est de générer de la plus-value à partir justement du crédit et des dettes. Donc c'est tout cela qu'il va falloir remettre en cause parce qu'on s'aperçoit que on aboutit à un système où on a des États obèses, des États qui sont prisonniers de cette dette et qui sont donc obèses mais impuissants, incapables d'assurer leur mission. Et c'est ça que la crise Covid a mis en lumière, c'est-à-dire qu'on fait de la dette parce que c'était nécessaire, en France on l'a fait, pour assurer la survie de la sphère privée. En revanche, ça ligote l'État dans ses missions et c'est tout cela qu'il va falloir aujourd'hui penser pour l'avenir.
Alors la dette, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise dette? Qu'allons-nous en faire? Est-ce que c'est possible de l'annuler ou est-ce que, comme dit Natacha, en tout cas, faut surtout être hypocrite là-dessus, sinon ça ferait peur aux investisseurs. Et est-ce que ça remet en cause le cœur du système capitaliste, Gilles Finkelstein?
Alors, je vais être moins nuancé peut-être pour une fois que Natacha Polony. Je pense que c'est une mauvaise idée que de prôner l'annulation de la dette, comme vient de le faire Arnaud Montebourg, après d'autres. Hein, Jean-Luc Mélenchon lui-même avait porté ça, et c'est un débat d'ailleurs légitime chez les économistes.
La dette Covid, on est bien d'accord, on ne parle que de ça. Là,
alors, on parle de la dette Covid, et on parle de la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne.
C'est important.
Tout ça représente malgré tout 20% de la dette française. L'idée qui est derrière ça, c'est que nous n'avons collectivement aucune responsabilité, je reprends les termes d'Arnaud Montebourg, dans l'émission de cette dette, qu'elle est aujourd'hui excessive, qu'elle va peser sur la croissance et que donc on peut l'annuler et on peut l'annuler sans dommage. Pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée? Je crois que c'est à la fois un risque européen. La France se retrouverait au moment même où l'Union européenne est en train d'évoluer, au moment même où, après des années et des années de débats et de combats, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un endettement commun. À ce moment-là, on vient porter le débat sur un sujet dont on sait que non seulement les Allemands, mais la plupart des autres pays, et peut-être même la quasi-totalité des autres pays, y sont opposés. Donc d'abord, un risque européen. Il y a ensuite, je crois, pour ceux qui le porteraient et qui sont aujourd'hui une partie de la gauche, je crois un risque électoral. Contrairement à l'intuition qu'ils peuvent avoir, ce que je crois, c'est que c'est une proposition qui, loin de rassurer, inquiéterait de la même manière ou de manière symétrique que la proposition de sortir de l'euro a inquiété l'électorat. Oui, bien sûr. C'est parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement d'annuler la dette? Et si on annule la dette, qu'est-ce qui se passe? Bon. Cela, j'utilise des arguments qui sont des arguments, on va dire, des arguments de raison, des arguments de crédibilité, mais quand on est candidat à une élection présidentielle, la crédibilité, c'est pas totalement secondaire. Mais j'ajouterai un autre élément et un dernier élément en partant non pas de cet élément de raison ou de mesure, mais de la radicalité. S'il y a besoin d'avoir de la radicalité dans une période qui n'est pas une période comme les autres, quelle est la bonne radicalité? C'est celle qui porte sur le sujet central. Le sujet central, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Et je ne vois pas comment on peut dire en même temps on va avoir besoin de dizaines, de centaines de milliards d'euros à investir dans la lutte contre le changement climatique, mais vous allez rire, dans le même moment, on propose de ne pas payer la dette. Et donc faire les deux en même temps, ça me semble totalement incohérent. Et donc je pense que c'est une mauvaise idée, je pense qu'il y a beaucoup de choses intelligentes à faire sur la dette, on pourra y revenir peut-être, mais que être sur la ligne de l'annulation, ça me paraît très dangereux.
Natacha Polony.
Non mais ça s'explique ce discours de l'annulation, tout à fait. Enfin, il faut quand même regarder dans l'histoire. La France est un des rares pays à avoir toujours payé ses dettes rubis sur l'ongle, notamment ses dettes de guerre. C'est-à-dire que la France a été saignée après 1870 par l'Allemagne et elle a remboursé, elle a tout payé en 2 ans au lieu de 3 ans. On ne peut pas en dire autant de l'Allemagne, qui justement doit aussi une part de sa prospérité actuelle au fait qu'elle a fait défaut. Et c'est bien ce point-là qui est essentiel. Il est nécessaire tout de même de ne pas sacraliser la dette et de réfléchir en termes historiques. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a différentes manières de régler ce problème de dette. Il y aurait une possibilité intéressante qui serait la création monétaire au sein de chaque, sans remettre en cause ce que je comprends parfaitement de la part de Gilles, sans remettre en cause ce nouveau dispositif européen qui permet en effet un début d'intégration monétaire, budgétaire, etc. Très bien. Simplement, on peut demander aux banques centrales des différents pays de produire de la monnaie en lien avec la Banque Centrale Européenne. Il y a des dispositifs qui permettraient donc de créer de la monnaie et de faire en sorte petit à petit de rendre cette dette indolore. Il y a une manière, on appelait ça autrefois euthanasier les épargnants, c'est-à-dire de créer de l'inflation qui rend cette dette moins douloureuse, c'est-à-dire qu'il a fait peser moins sur les jeunes générations et plus sur ceux qui possèdent déjà du patrimoine, sur ce qu'on appelle les rentiers. Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre en place. Ça ne se fera évidemment qu'en tenant compte d'abord de la psychologie collective, c'est-à-dire du fait qu'on ne proclame pas des choses sans penser aux effets, aux dommages collatéraux que ça aura sur les marchés, en effet dans la tête de tous les citoyens, et je rejoins Gilles sur une chose, c'est-à-dire que ça peut faire peur, et on ne peut réfléchir à ces éléments-là que dans un contexte qui est un contexte de rapport de force au sein de l'Union européenne, puisqu'il y a des visions différentes du problème. Mais il faut avoir en tête ces rapports de force et essayer de peser dans un sens qui peut servir l'économie, notamment l'économie française, et ne pas la couler. Mais de fait, on ne peut pas rester immobile sur ce sujet-là. Il faut répondre aux citoyens qui, actuellement, se posent la question cruciale. Qui va payer? Donc la question, c'est de savoir comment on fait en sorte que ce ne soit pas trop douloureux pour les uns et pas pour les autres, que ça crée de l'inégalité, et surtout, il ne faut surtout pas que ça entrave la possibilité d'investissement, la possibilité pour l'État de répondre aux besoins des citoyens et d'aller dans le sens qui va servir leurs intérêts.
Voilà. Qui va payer, en effet? Alors, Natacha Polony, Jean Finkelstein, elle dit, il y a une solution, on a vu par le passé, c'est l'inflation, en fait, qui grignote la dette, on peut euthanasier les épargnants, et donc elle suggère cette idée de création monétaire par les banques centrales. Qu'en pensez-vous?
Alors, je pense que nous convergeons. C'est-à-dire que on ne peut pas croire que c'est indolore, que personne ne paye et qu'on peut régler, et on peut supprimer d'un trait de plume 20% de la dette française. Si on écarte d'un côté l'annulation, si on ne se contente pas d'un autre côté du discours qui est celui aujourd'hui du gouvernement qui dit la dette va être payée par la croissance et des réformes structurelles. Il y a entre les deux, je crois, un chemin à bâtir, dans lequel il y a à la fois une réflexion sur la dette, savoir quand on commence à payer, pendant combien de temps, et il y a beaucoup de marge de manœuvre, de savoir quelles recettes l'Union européenne peut créer comme recettes nouvelles, soit de taxation à l'extérieur sur le CO2, soit sur le numérique, en sorte qu'une partie de cette dette soit payée aussi par l'extérieur. On peut réfléchir, et ça sera évidemment un des thèmes de l'élection présidentielle, savoir si les plus riches contribuent d'une manière ou d'une autre à ce paiement de la dette. Donc, il y a tout un chemin à trouver. Peut-être faudra-t-il aussi, ce que Natacha Polony a dit d'une phrase, monétiser la dette, c'est-à-dire peut-être même la sortir de la Banque Centrale Européenne pour la mettre ailleurs. Tout ça, c'est des débats techniques qui sont des débats légitimes, mais entre l'annulation pure et simple, d'un côté, version Arnaud Montebourg, et le discours du gouvernement, la croissance, on attend tout de la croissance, il y a une position et je crois qu'il y a un chemin.
Natacha Polony, allez, on clôt le sujet dette avec vous d'une phrase, si vous voulez bien.
D'un mot, on peut dessiner la transition vers notre discussion avec Pascal Horry, notamment autour du bilan de Valéry Giscard d'Estaing, parce que on en parlera avec lui, mais la question du financement de l'État auprès de sa banque centrale ou du financement sur les marchés est cruciale. Si le Japon peut avoir une dette aussi importante, c'est parce qu'elle est détenue par les Japonais eux-mêmes. Et la question de savoir donc qui détient la dette, comment elle se finance, est-ce qu'on est dépendant des fluctuations des marchés ou est-ce que les États ont la possibilité de créer de la monnaie pour petit à petit, on va dire, allonger le délai. Ça, c'est une question cruciale. Et ça se joue autour des règles de financement de l'État auprès des banques.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Le grand face-à-face continue avec le troisième thème du duel entre Natacha Polony et Jill Finkelstein. Le cannabis, la commission des stupéfiants des Nations Unies, c'est-à-dire l'organe qui décide quelles substances sont considérées comme des drogues au vu du droit international, a approuvé, c'était mercredi dernier, la reclassification du cannabis et de sa résine dans les conventions internationales, reconnaissant de ce fait, Gilles, son utilité médicale. C'est ça qui s'est passé?
Alors, c'est ça qui s'est passé, et il y a eu dans le même temps une interview de Juan Manuel Santos, l'ancien président colombien, ancien prix Nobel de la paix, dans le Figaro de cette semaine, qui donnait ce chiffre que je crois très, très important. En l'espace de 10 ans, le marché illégal des drogues est passé de 320 milliards de dollars à plus de 500 milliards. On voit l'importance de ce développement. Il s'agit là d'une immense question de société qui touche à la fois des questions de santé publique, des questions de sécurité, des questions économiques dans beaucoup de quartiers et une question de philosophie politique sur laquelle je voudrais m'arrêter. Je crois qu'il n'y a pas un sujet sur lequel l'écart entre la loi et les pratiques sociales soit aussi important. On a une des législations les plus rigoureuses et cette législation n'est aucunement appliquée. Et je pense que cette situation-là ne peut pas durer durablement. On voit que, y compris sur le cannabis thérapeutique, on a de très grandes difficultés à avancer. Quant au débat sur la dépénalisation, c'est un débat qui est un débat absolument tabou. Je pense qu'il faut aujourd'hui le poser. Il y a 15 jours, dans cette émission, on recevait un des meilleurs spécialistes des questions de démocratie participative, Loïc Blondiot, qui avait été un des garants du débat sur la Convention citoyenne sur le climat. Une des questions qu'on se posait avec lui, c'était est-ce que le champ de cette convention citoyenne n'était pas trop large. Eh bien, il y aurait un champ, une question qui serait une question peut-être plus précise, qui pourrait donner lieu à une convention citoyenne si les responsables politiques ne peuvent pas se saisir de cette question, c'est la question de la dépénalisation. Et je crois que ça serait une bonne idée de créer une convention citoyenne sur la question de la dépénalisation. Je crois que la société est bien plus en avance que les responsables politiques sur cette question.
En tout cas, dans ces pratiques, en effet, au regard de la loi. Natacha Polony, Gilles Finkelstein suggère donc une convention citoyenne sur cette question. Qu'en pensez-vous ?
Je pense d'abord que la convention citoyenne, si elle existe, ne doit pas porter sur la dépénalisation, mais sur la légalisation. Je pense que la différence, on va le préciser, dépénaliser, ça reviendrait simplement à expliquer qu'on ne va pas poursuivre les consommateurs et que l'on va arrêter ce système de prohibition, dont on voit en effet, je rejoins Gilles là-dessus, que il ne fonctionne pas, mais à un point qui est totalement dramatique. La légalisation, c'est la création, en fait, d'une filière légale, d'une organisation de tout cela, ce qui est, en fait, très différent. Pourquoi ? Parce que si vous légalisez, vous pensez la façon dont vous allez organiser cette filière, qui a le droit de produire, de quelle manière, comment l'État contrôle. Après, vous pouvez avoir différentes options, c'est-à-dire que vous avez des tenants d'une légalisation qui serait totalement libérale, chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on peut cultiver dans son jardin et vendre sans aucun problème. Vous pouvez aussi réfléchir à légaliser de la même manière que le tabac est légalisé, c'est-à-dire avec un État qui aurait, comme autrefois la CEITA, le monopole de la culture et de la commercialisation, ce qui permet de faire rentrer des devises, mais aussi d'avoir en quelque sorte la main sur un produit qui n'est pas un produit anodin. C'est-à-dire que, en fait, tout le défaut du système actuel, c'est que, puisque le cannabis est interdit, sans aucune réflexion sur la façon dont se passe cette interdiction, ça coûte une fortune en termes de mobilisation des forces de l'ordre. Ça, en effet, ça détruit l'idée même du respect de la loi, puisque tout le monde contourne cette loi dans des proportions véritablement inquiétantes, et ça empêche une véritable politique de prévention dans la mesure où le cannabis n'est pas un produit anodin. Il est quand même nécessaire de le dire. Sauf que ça n'est la véritable prévention pour expliquer à quel point cela peut faire basculer dans la dépression, cela peut déclencher des psychoses chez certains profils très spécifiques. Donc il faut en avoir conscience, il faut que tout cela soit régulé, qu'il y ait une véritable information. Or, elle n'est pas faite puisque c'est interdit. Le produit est interdit, donc on croit qu'on a réglé le problème en interdisant. Donc je pense en effet qu'il serait temps d'avoir ce débat. J'ajoute une dimension. Alors, je pense que si on avait réellement ce débat et si on arrivait à la légalisation du cannabis, il faut assumer un élément. C'est que ça détruit toute une part de l'économie dans certains quartiers. Donc, ça n'est faisable que si les politiques prennent réellement leurs responsabilités et décident enfin de remplacer une économie souterraine et parallèle par une véritable économie, c'est-à-dire en proposant du travail, en proposant de la création d'entreprises, en étant véritablement présent dans des quartiers qui ont été abandonnés au trafic.
Une phrase.
Juste une phrase.
Le mot de la fin sur ce débat.
Une phrase en forme de mea culpa. Lorsque j'ai dit dépénalisation, ma langue a fourché. Je voulais évidemment dire légalisation et je souscris à ce que vient de dire Natacha Polony.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec l'historien Pascal Horry.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Qu'est-ce qu'une nation ? C'est le titre d'un essai passionnant que publie l'historien Pascal Horry chez Gallimard. Il travaille sur ce sujet depuis maintenant 40 ans. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour Alexandra Benaïm.
Merci d'être au micro de France Inter. Avant de parler de votre ouvrage et de ce sujet, qu'est-ce qu'une nation ? On va d'abord passer quand même à ce sujet de la semaine.
La France a choisi son président. Vous m'avez désigné en effet par un courant spontané et populaire. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France.
Gilles Finkelstein, donc en effet, décès de Valérie Giscard d'Estaing. On vient de l'entendre.
Oui, décès de Valérie Giscard d'Estaing et on va avoir des correspondances dans l'échange qu'on va avoir avec cette question de la nation. On vient d'entendre ce que disait Valéry Giscard d'Estaing. Peut-être la première question que je voudrais vous poser, c'est quel est le lien, pour vous, avec un regard historique, entre l'état d'une société et l'action d'un président de la République? On a beaucoup parlé d'un mot sur lequel vous revenez dans votre livre, qui est ce mot de modernité, s'agissant du bilan du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, à la fois sur son action sociétale et sur son action institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, cette modernité? Peut-on parler de modernité? Sur quoi considérez-vous que son action l'a été? Et dans quelle mesure ce qu'il a fait, et je pense notamment sur les questions de société, a été imprégné, a été poussé par ce qu'était l'état de la société dans ce milieu des années 70?
Comme vous venez de le dire, Gilles Finkelstein, je parle de modernité, pas de modernisation. Et c'est la réponse, d'une certaine façon. D'ailleurs, le débat sur le cannabis tout à l'heure, c'est exactement ça, parce que sous Valéry Giscard d'Estaing, vous avez l'équivalent de ce décalage entre la société et la loi, c'est l'IVG. Et Bobigny, ça a été ça, ça a été le constat qu'il fallait, et c'est sous Giscard d'Estaing, après ce constat qui a eu lieu avant Giscard d'Estaing, qu'on vote la loi. Bon. Et ça, l'histoire est rempli de ce type d'exemple. Et le rapport à la modernité, c'est que ce que je défends dans le livre, c'est que évidemment la nation, ça a été et ça reste une forme de modernité révolutionnaire entre le XVIe et le XVIIIe siècle, où ça s'inscrit vraiment dans le marbre, dans un certain nombre de pays. Valéry Giscard d'Estaing, lui, il accompagne un mouvement de, entre guillemets, modernisation, qui fait que vous avez des évolutions qu'on appelle assez laidement sociétales, mais enfin, conservons le mot sociétal, par rapport à des institutions qui, elles, ont leur propre rythme. Et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais les institutions françaises, il faut quand même, quel que soit le débat, vos trois débats de tout à l'heure, doivent être toujours indexés sur le fait que ça se passe en France, dans ces termes-là, parce que nous avons des institutions qui sont uniques, mais j'insiste, uniques en Europe occidentale. C'est-à-dire des institutions fondamentalement centralistes et présidentielles, surtout présidentielles. Donc une partie de notre débat est très intéressant si on parle de la France, mais la généralisation à partir de ce qui se passe en France, qu'on en pense du bien ou du mal, et ce qui se passe à l'échelle déjà de l'Europe occidentale, voire même du monde, est complètement hasardeuse.
Natacha Polony.
Alors, il y a un élément qui me semble assez frappant chez Valéry Giscard d'Estaing, c'est qu'il est le premier président français à avoir théorisé une forme d'affaiblissement de la France, dans la mesure où son idée était que, et il l'avait répété plusieurs fois, la France pesait 1% de la démographie mondiale et donc devait tenir compte de cela et du fait qu'elle ne pourrait pas seule peser plus que 1% des affaires du monde. Et on peut lire aussi son engagement européen à cette aune, c'est-à-dire cette conception d'une nation comme étant dans sa phase, j'allais dire, de perte de puissance. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui oublie justement tout le récit qui porte cette nation et le fait que la puissance est une prophétie autoréalisatrice et que la puissance disparaît quand on décide qu'il n'y a plus de puissance.
Est-ce qu'il y avait une forme de défaitisme dans en effet cette position de Valéry Giscard d'Estaing, Pascal Horry?
Je pense que l'intéressé aurait protesté en rappelant qu'il s'est battu à l'extrême fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la France retrouve sa place. Alors, il s'est battu à un modeste niveau. Mais ce qui est clair, et ça je serais d'accord avec Natacha Polony là-dessus, c'est que c'est l'anti-De Gaulle, enfin au sens où on inverse. C'est-à-dire que De Gaulle en 1940, il dit « je suis la France ». Ce qui est quand même paradoxal, parce que même Churchill ne le croit pas. Bon, et finalement, bon, on peut dire que l'histoire l'a rejoint. Dans le cas de Valéry Giscard d'Estaing, son choix européiste est très cohérent. Les médias ont beaucoup commenté le modernisateur, bon, on ne va pas y revenir, mais on a parlé de l'européiste, mais ça me paraît essentiel pour comprendre la logique de Giscard d'Estaing, qui pense qu'on est 1%, peu importe. La seconde partie, la dernière partie politique de sa vie, quand il a compris qu'il ne pourrait pas retourner à l'Élysée, ça a été de se battre pour le renforcement de l'Union européenne. Et Valéry Giscard d'Estaing est premièrement le grand acteur d'une date historique dans l'histoire de l'Europe, voire de l'humanité, mais qu'on n'a même pas remarqué à l'époque, qui est 2005. La victoire du non au référendum, et c'est d'abord les Français qui ont dit non, d'ailleurs les Néerlandais ont suivi assez vite, c'est-à-dire que vous aviez une logique d'intégration qui allait jusqu'à une constitution. On va peut-être parler tout à l'heure des institutions américaines. Le modèle de Giscard d'Estaing, Hein, je m'éloigne pas du sujet. Les États-Unis, c'était la Convention de Philadelphie, 1787. Les institutions américaines, dont on a vu récemment à quel point elles résistaient bien, même à un Donald Trump, elles datent de la Convention de la Philadelphie. Et Giscard était de ceux qui disaient, faisons une Convention de Philadelphie pour l'Europe. Il y a eu effectivement une convention. Rédigeons une constitution. Il y a eu une constitution et le peuple français a dit non. C'est pour moi l'entrée d'ailleurs dans l'ère dans laquelle nous sommes, qu'on appelle populiste autrement, parce que ça a donné ensuite le Brexit et bien d'autres. Et là, Giscard d'Estaing a été la première victime, au fond, de l'entrée dans cette troisième ère, parce que pour moi, c'est l'ère dans laquelle nous sommes, et c'est la troisième depuis la guerre.
Gilles Finkelstein, on avance sur la question à Pascal Horry.
Oui, Pascal Horry, vous disiez tout à l'heure que tous nos débats précédents et le début de cette discussion partaient de la France et de cette spécificité française. Je crois que ce qui caractérise votre livre, au contraire, c'est son ampleur à la fois historique et géographique, parce que vous parlez de très nombreux pays. L'introduction a pour titre « Cette obstination des nations à ne pas mourir ». Et vous concluez, c'est les premières phrases de la conclusion, « Il n'est pas si difficile de définir la nation, on l'a fait en 6 mots, un peuple qui devient le peuple » avec un grand P. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans la lecture de cet essai, c'est qu'il y a un acteur qui est à peu près absent, que l'on vient d'évoquer, qui est l'Union européenne. Or, Valéry Giscard d'Estaing a essayé de faire, je ne sais pas s'il a essayé de faire de l'Union européenne une nation, mais en tout cas d'en faire un acteur politique. Est-ce que, par rapport à ce qu'est votre réflexion dans ce livre sur cette nation, est-ce que c'est une quête qui vous paraît vaine que d'essayer de faire une nation de toutes ces nations?
C'était pas une quête vaine pour un certain Victor Hugo quand il lançait la formule en 1849, les États-Unis d'Europe, où il disait « Un jour on dira Allemagne, Italie, Espagne, comme on a dit Béarn ou Bretagne et Lorraine ». Bon, ça c'est la logique des États-Unis d'Europe. Valéry Giscard d'Estaing a adhéré au comité d'action pour les États-Unis d'Europe, donc il y a une cohérence. Sauf que pour l'instant, et ça c'est le constat dont je pars dans mon livre, j'avais 20 ans en 68, c'est dire à quel point je suis un vieux, vers 1968, il est évident que l'internationalisme paraissait triompher. Toute l'histoire du monde, pas seulement de la France, a inversé ça, c'est-à-dire que la nation, c'était le passé, c'est devenu le présent, c'est l'avenir. Regardez ce qui se passe autour de nous. Quel sera le destin demain de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, la Catalogne, de l'Écosse, du Kurdistan. Donc c'est tout à fait l'actualité, sans parler de la guerre très 19e siècle entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Deuxièmement, on nous disait, c'est le mal... la nation, puisque ça génère le nationalisme, donc la xénophobie, pourquoi pas le racisme, alors que la nation, ça vient de la gauche, entre guillemets, c'est le siècle des Lumières dans toute sa splendeur. Et ça, effectivement, c'est un élément d'actualité incroyable aujourd'hui, et d'ailleurs, qui peut générer des solutions dites populistes, parce que dans le populisme, il y a le nationalisme, bien entendu. Puis enfin, on nous disait, c'est un système complètement imaginaire, alors que c'était imaginé, mais je signale que l'internationalisme, c'est complètement imaginé et construit aussi. C'est-à-dire que la critique qu'on peut faire à la nation en disant, oh, c'est une superstructure qui est imposée. Mais c'est vrai de toutes les structures politiques. La question, c'est de savoir si ça marche ou si ça marche pas. Et le XXe siècle, moi, ça m'avait beaucoup frappé, déjà à l'époque, au moment de la chute du mur, le XXe siècle a été le lieu d'une expérience, mais au sens chimique du terme, ou physique du terme, qui s'appelait l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Vous constaterez qu'il n'y a pas un gramme de géographie là-dedans. Le monde entier, c'est l'utopie de Trotsky ou de Lénine, c'est de devenir URSS. Eh bien, la Commune de Paris n'a duré que 72 jours, mais l'URSS a duré 72 ans et elle est tombée.
Natacha Polony.
Vous évoquez aussi dans le livre ce rapport, qu'on dirait dialectique, entre le national et le supranational. Et vous expliquez que il y a des idéologies supranationales qui ont tendance à s'incarner dans des nations. Ça a été vrai du phénomène bolchevique. Et vous évoquez la question de ce que peut devenir l'islamisme. Parce que l'islamisme est aujourd'hui une idéologie supranationale. Mais est-ce que cette idéologie supranationale, en l'occurrence, n'est pas profondément destructrice dans des pays comme la France, par exemple, dont vous soulignez à l'instant qu'elle a des institutions extrêmement particulières, qui ne ressemblent à aucune autre? Et la question est de savoir comment on peut, de façon, j'allais dire, à la fois lucide, non brutale, sans entrer dans la violence, se confronter à cette idéologie supranationale et perpétuer ce qui est tout de même une originalité dans l'ensemble du monde.
Comme toujours, dans les bonnes discussions, il faut se mettre d'accord sur les termes. C'est-à-dire pour ça que j'appelle le livre « Qu'est-ce qu'une nation ?» et j'essaye de donner une réponse en six mots, effectivement. Islam, ce n'est pas la même chose qu'islamisme. L'islamisme, c'est une idéologie qui a une cohérence radicale, qui explique d'ailleurs la fascination qu'elle peut exercer sur un certain nombre de jeunes qui rejoignaient Daesh. Je suis désolé, je vais dire quelque chose qui paraît énorme, mais avant de sauter de son fauteuil, il faut peut-être réfléchir, comme on rejoignait les brigades internationales en 36. C'est-à-dire que vous aviez un grand projet trans-supranational, et on allait là où c'était chaud, c'était l'Espagne, et là, c'est Irak-Syrie. Donc il y a une dimension, effectivement, anationale, d'autant plus que à peu près tous les États du monde aujourd'hui sont des États-nations, mais il y a une petite poignée d'États qui font exception, et personne n'en parle, parce que c'est l'Arabie Saoudite, comme son nom l'indique, et les pays voisins, un peu le sultanat d'Oman, enfin bon, il y a une spécificité à Oman aussi, c'est-à-dire que ce sont là des anciens régimes fondés sur la logique dynastique, comme l'Empire Ottoman. Et le jour où l'Empire Ottoman s'effondre, devient la Turquie, on est dans le monde moderne. Réponse sur l'islam, l'islamisme, ce que je fais remarquer, c'est que les cultures religieuses sont essentielles pour définir l'identité culturelle d'une nation, que, par exemple, la France est un pays fondamentalement catholique, et la Révolution française est complètement marquée par le fait qu'elle s'oppose à l'Église catholique, alors que toutes les révolutions fondatrices du monde moderne jusque-là s'adossaient positivement à la religion qui était protestante. De la même façon, on peut se demander si l'islam, non pas l'islamisme, ne pourrait pas évoluer comme a évolué le catholicisme sur la question des droits de l'homme, de la liberté d'expression, etc., qui était fondatrice de la Révolution française. Les papes ont eu un discours d'hostilité à cette forme du monde moderne systématique pendant un siècle. Et puis, même le Vatican a évolué. Jean-Paul II s'est mis à se rallier aux droits humains, comme on dit maintenant. Donc, évidemment, moi je ne suis pas prophète, je signale qu'il n'y a pas de raison de penser que l'islam soit intrinsèquement négatif par rapport à la démocratie. Que ce soit effectivement une religion qui ne soit pas fondatrice de la France, c'est clair. Et donc, prenez le cas des États-Unis. Aux États-Unis, la culture... Mais chaque respiration américaine est protestante. Mais à titre personnel, vous êtes catholique, vous êtes juif, vous êtes bouddhiste, vous êtes musulman. Mais l'intégration se fait sur des valeurs qui sont en fait rattachables finalement à des valeurs protestantes. Dans le cas de la France, ce sont des valeurs catholiques. Mais bien entendu, on fait une nation avec de l'intégration. Les nations dont on parle, et elles sont quand même nombreuses à la surface de la Terre, fonctionnent encore aujourd'hui, à cette minute même. Moi, je suis pas prophète, en effet. Je sais pas si ça fonctionnera si longtemps que ça, mais je crois que oui. Pour moi, une génération, voire plus, elle fonctionne parce que l'intégration se poursuit. Moi, quand j'enseignais à la Sorbonne, parce que maintenant je suis aussi à la retraite, j'avais dans l'amphithéâtre, effectivement, des beurrettes, et encore plus, de la première génération. Donc la machine à intégrer continue à fonctionner, même dans ce pays très centraliste, et à mon avis très rigide qu'est la France.
Oui, je voudrais peut-être prolonger cette discussion, cette espèce d'aller-retour entre l'actualité liée au décès de l'ancien président de la République et votre réflexion sur la nation. Une des trois parties de votre livre s'appelle « Une construction poétique ». Qu'est-ce qu'une nation ? Une construction poétique, c'est-à-dire à la fois un espace qui a un nom, qui a un territoire, et des signes de reconnaissance, emblèmes, monuments, rites. Quand on regarde, j'étais très frappé, moi, de ça, quand dans cet hommage au bilan du président de la République, en fait, le bilan au sens de ce qui a laissé une trace et une trace durable dans l'histoire du pays est extrêmement significatif. En revanche, la dimension affective au président de la République, au président Giscard d'Estaing, était relativement faible et il y avait presque une situation symétrique avec celle de Jacques Chirac, dans laquelle le bilan était sans doute plus modeste, mais l'attachement était plus fort. Est-ce que de la même manière qu'une nation, c'est aussi une poétique, est-ce que dans un président de la République, l'attachement à un bilan, est-ce que cette dimension-là, ce que vous appelez les ressources de l'imaginaire social, où se combinent réflexion et émotion, est-ce que c'est ce qui n'a pas peut-être manqué à Valéry Giscard d'Estaing ?
C'est certain, d'ailleurs quand on voit la manière dont il a eu du mal à se situer par rapport aux grands emblèmes, la Marseillaise, le 14 juillet, etc., on sent bien que la volonté de modernisation se heurtait. Alors là, certainement, à une société, puisqu'on parlait de ça à propos du cannabis, mais en sens inverse, qui était tout à fait attachée à cette poétique de la nation, sans laquelle vous ne comprenez pas la logique des emblèmes. Un pays qui a inventé la panthéonisation, puisqu'on a panthéonisé récemment, non seulement Maurice Genevoix, mais tous les soldats de la guerre de 14-18, c'est un pays qui a un certain rapport au rituel. Mais il ne faut pas oublier que le peuple avec un petit p de la définition que Gilles Finkelstein rappelait tout à l'heure, qui est au départ, c'est un peuple qui se distingue du peuple voisin par ses rites, hein. Qu'on appelle religion, mais la religion, c'est pas une question de dogme, c'est une question de rite. Et effectivement, les nations ont leur propre rituel, leur propre emblématique. Moi, je me livre à un exercice, par exemple, parmi les nombreux exercices de ce livre, sur le drapeau de l'Afrique du Sud. Vous regardez hypnotiquement le drapeau de l'Afrique du Sud, vous comprenez toute l'histoire de l'Afrique du Sud récente et la logique de Mandela. Mais il faut bien regarder le drapeau. Tout est là-dedans. Et l'hymne sud-africain, c'est démentiel. C'est un hymne qui intègre même l'hymne de la suprématie blanche, mais transformé. Et ça, c'est magique.
Alors, Pascal Horry, quand même, dites-nous ce qu'il y a sur ce drapeau sud-africain, parce que là, on est derrière la radio et on le voit pas.
Oui, vous connaissez la phrase de Goscinny, grand homme de radio. Moi, j'écoute la radio parce que ça me repose les yeux.
Bon. Donc, alors, on va écouter votre voix qui va parler à nos yeux.
Le drapeau sud-africain, c'est le drapeau de la suprématie blanche d'avant, avec un orangé qui tourne un peu au rouge, mais c'était les orangistes, et qui est traversé depuis la gauche par une sorte de flèche zoulou aux couleurs de l'ANC. C'est-à-dire que, en bonne logique, de même qu'on attendait à ce que les Blancs fussent raccompagnés au bord de la mer et la valise ou le cercueil, ce qui ne s'est pas pour l'instant en tous les cas passé, de la même façon, le nouveau drapeau, ce n'était pas le drapeau de l'ANC. C'était une synthèse problématique, hein, puisqu'il est déchiré, des deux. Mais ça dit tellement. Mais vous pouvez faire le même exercice sur les emblèmes sonores que sont les hymnes, et puis bien sûr sur toutes les mythologies, qui disent énormément.
Question de Natacha Polony.
Alors, deux questions en une. Vous évoquiez la dimension essentielle d'intégration à la nation qui se fait aussi par la transmission. Et cette question de savoir comment on transmet me semble essentielle puisque j'ai l'impression qu'il y a là aujourd'hui quelque chose qui est fragilisé. Deuxième point, pourquoi tout cela est-il fragilisé? Et là, ça rejoint peut-être l'actualité et le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Il est arrivé au pouvoir en France à un moment qui a été un moment de bascule dans l'histoire du monde, des pays occidentaux au départ, mais qui a eu une influence, qui est le début de ce cycle néolibéral de dérégulation des économies, de libre-échange, et finalement de rêve d'un marché mondial totalement intégré et d'une uniformisation, d'une globalisation culturelle qui permettrait la constitution de ce grand marché. Est-ce que le plus grand danger pour les nations n'est pas dans ce capitalisme consumériste qui a tendance justement à araser toutes les différences et à essayer de se libérer du passé pour créer une instantanéité permanente qui est celle du consommateur et de ses pulsions?
La réponse de Pascal Horry.
Ce qui est indéniable, c'est que la fameuse mondialisation, qui remonte d'ailleurs plusieurs siècles en arrière, se poursuit. Elle est technologique, économique, culturelle. Mais ce que je défends comme thèse, entre autres dans ce livre, c'est que ça n'a pas fait avancer le mondialisme. C'est-à-dire que la mondialisation produit du national, et de même que mon sous-titre, c'est une histoire mondiale, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus mondial que le national. La crise de 2020, la pandémie, le montre bien. Puisque, alors, c'est une façon de répondre aussi à la question de Jill Finkenstein sur l'état de l'Union européenne. Bien entendu, le contraire eût été étonnant. L'Union européenne est en train de retrouver ses marques sur la question du vaccin, etc. Il n'empêche pas moins qu'elle a été très largement aux abonnés absents. Donc, plus vous êtes dans un monde mondialisé, parce que le virus, il est mondialisé, moins, d'une certaine façon, pour l'instant, ça produit du mondialiste.
Ça ne produit pas d'internationaliste. C'est-à-dire que ça génère l'égoïsme, en fait.
C'est un jugement de valeur. Non, mais ça génère la recherche. Je réponds aussi à l'autre partie de la question de Natacha Polony. Effectivement, on peut dire qu'il y a une fragilisation. Moi, je la vois pas tellement. En ce moment, peut-être que la fragilisation qu'on peut repérer en France, mais dans beaucoup d'autres pays, tient à l'ancienneté de la réussite de l'intégration nationale française par rapport à d'autres pays. Mais voyagez donc en Afrique subsaharienne, voyagez en Asie centrale, vous avez sous les yeux des nations qui en sont à l'étage de l'époque de l'Avis, qui sont en train de constituer leur mythologie, et c'est absolument moderne pour elles. Donc la fragilisation, je vois bien où on pourrait la diagnostiquer, mais je la sens pas tellement.
Alors justement, c'est là-dessus sur lequel je voudrais prolonger la question. On parle de fragilisation, Jérôme Fourquet a pu parler d'une archipélisation de la société française qui est éclatée en de multiples pôles. Est-ce que c'est paradoxal de dire que la France de Giscard était d'une certaine manière la nation plus divisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, ou en tout cas était divisée d'une autre manière? Vous parliez du drapeau, vous parliez de l'hymne, qui sont des éléments constitutifs de la nation. Le rapport que l'on pouvait avoir, vous disiez que vous aviez 20 ans en 1968, le rapport que l'on pouvait avoir au drapeau ou le rapport que l'on pouvait avoir à l'hymne national était au moins aussi conflictuel il y a sous Giscard qu'il ne l'est aujourd'hui.
Certainement. Alors, Natacha Polony pourrait vous répondre, et à moi aussi, qu'il y a peut-être des structures démographiques, etc., qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Mais ce qui est évident, c'est que, bien entendu, la France a toujours reconstitué, et pas le seul pays, pensez à l'Espagne, des éléments qui pourraient conduire à la guerre civile. Mais la plupart du temps, en 44, non, elle n'évite pas, elle évite cette guerre civile. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est que, dans l'ensemble, ce sont les institutions, j'y reviens toujours, la réponse à ces questions, elle est nationale. La France a des institutions centralisées, présidentielle, et donc le débat politique est très différent. Prenez l'Allemagne. Pourquoi est-ce que, face à la pandémie, on n'arrête pas de dire l'Allemagne est fédérale, l'Allemagne est parlementaire, c'est-à-dire deux caractéristiques qui ne sont pas du tout françaises en ce moment. Et donc, bien entendu, Madame Merkel, par exemple, elle gouverne, elle préside un gouvernement de coalition avec les sociaux-démocrates, par exemple. Vous n'imaginez pas l'équivalent aujourd'hui. Donc, les institutions françaises depuis 58, qui ont leur propre mérite, hein, je ne suis pas en train de polémiquer contre les institutions, produisent de la bipolarisation, produisent du clivage, et d'une certaine façon, la classe politique adore ça.
Mais est-ce que c'est depuis 1958, ou est-ce que, justement, ce qui caractérise la construction de notre nation, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays, elle s'est beaucoup plus faite par l'État et avec l'État.
Ah, tout à fait d'accord. D'ailleurs, Tocqueville avait été le premier à dire, écoutez, c'est bien gentil, mais je vois la part de continuité. Tout le monde, jusqu'à Tocqueville, disait, la Révolution française, c'est une grande rupture. Et il disait, mais écoutez, la continuité, le préfet d'aujourd'hui, 19e siècle, donc encore d'aujourd'hui quelque part, c'est le descendant de l'intendant de l'ancien régime. Ça, c'est absolument évident. Mais ce rôle de l'État doit être accompagné de la crise spécifique à la France qui a donné la laïcité, tenez coucou, un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans le débat, à savoir que la Révolution française s'est faite contre l'Église catholique. Ce qui donne un style particulier à notre vie encore aujourd'hui, non pas à cause du statut du catholicisme, mais parce que c'était un élément de clivage qu'on ne trouve pas aux États-Unis avec la Révolution américaine, qu'on ne trouve évidemment pas en Angleterre, bien qu'il y ait eu une majorité protestante et une minorité catholique persécutée, mais ça n'a absolument pas abouti au culte de la laïcité qui est typique de l'identité nationale française.
Gilles, il nous reste une poignée de secondes, allez-y.
Oui, alors moi juste peut-être pour terminer par ce qui est un conseil de lecture pour les auditeurs. Je crois vraiment que l'ampleur de ce livre en fait un livre qui est absolument fondamental sur une question qui nous taraude tous et qui interroge à la fois en France et dans beaucoup d'autres pays. Et je ne sais pas si c'est l'aboutissement de nombreuses années, même de nombreuses décennies de recherche de votre part, mais vous citiez tout à l'heure l'Afrique du Sud. Je suis impressionné du nombre d'exemples que vous citez, et donc on ressort de ce livre, et je crois que c'est le plaisir que l'on a, le plaisir de lecture, on ressort de ce livre plus intelligent.
Écoutez, je n'ai rien à ajouter.
Eh ben, on va rajouter le titre de votre ouvrage, Qu'est-ce qu'une nation, une histoire mondiale. Merci Pascal Horry d'avoir été sur France Inter, c'est publié aux éditions Gallimard. Natacha Polony, Gilles Finkelstein, merci à vous aussi et à samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt, à la réalisation Marie Merrier et à la technique Théo Gomard. Demain, dans Questions politiques, nous recevrons Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Agnès Pannier-Runacher, elle est chargée de l'industrie.